Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir ainsi.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens, très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
C'est reparti pour une saison après plusieurs mois d'interruption, de rediffusion. Une journée particulière, tous les dimanches à 14h sur France Inter, reste le lieu où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Timothée de Fombelle. Bonjour Timothée.
Bonjour Zoé.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier, sur France Inter.
Timothée de Fombelle, vous êtes écrivain de littérature jeunesse.
Oui.
Oui. Vous dites d'ailleurs faire semblant d'être devenu grand, c'est vrai?
Bah, c'est le seul moyen, je crois. C'est on est obligé de grandir comme ça, en tout cas dans les yeux des autres. Mais il y a le petit Timothée qui reste bien vivant en moi et voilà. J'ai l'impression que c'est le cas de tout le monde. Ma mère me dit qu'il a un âge pas très avancé, mais enfin pas toute jeune non plus. Me dit que ça la fait hurler de rire que les gens croient qu'elle n'a plus 7 ans, enfin qu'ils la regardent sérieusement avec ses cheveux blancs. Et moi, je suis un peu la même chose avec un peu moins de cheveux blancs.
Alors vos personnages, Toby Lolness, Van Gogh, Victoria, sont des héros qui accompagnent les enfants et certainement les parents aussi des enfants, de nos enfants. Ça les accompagne depuis des années. Et là, au printemps dernier, on découvrait votre dernier livre intitulé Alma. Alma, c'est le prénom d'une petite fille. Une petite fille qui part à la recherche de sa famille. C'est une saga familiale au temps de l'esclavage. C'est ça, votre dernier roman?
C'est ça, ouais, c'est le début du dernier roman, parce que ça va être une trilogie, mais le premier volume, Le vent se lève, dit bien ce qu'il dit. C'est-à-dire, c'est la partie africaine, puis la grande traversée, la terrible traversée de cette famille d'une vallée au creux de l'Afrique qui va se retrouver dans le tourbillon de l'Atlantique du XVIIIe siècle. C'est un roman d'aventure, mais l'esclavage n'est pas une aventure. C'est une tragédie, et donc c'est cette jeune héroïne, Alma, qui se retrouve confrontée à ce drame.
Timothée de Fombelle, vous avez choisi comme journée particulière un jour de la fin du mois d'août 1986. Vous ne vous souvenez pas de la date exacte, hein ?
Non, mais ça doit être la deuxième quinzaine du mois d'août, parce que je vois ce changement dans le temps, dans le climat qui est après le 15 août. Il y a quelque chose de plus humide, de plus orageux, il y a l'odeur de mûr, il y a tout ça. Donc je sais que c'est dans la deuxième moitié du mois d'août.
Vous aviez 13 ans et vous étiez comme chaque été en vacances dans la maison de vos grands-parents.
Au fond de la propriété, il y a un grand arbre, plus vieux que tous les souvenirs de la maison.
Trois étages, tu vois. Tu veux pas monter? Tu vois, on a mis des sièges avec un canapé, enfin, des petits sièges, c'est des planches clouées.
Oui.
Tu vois, ça c'est le premier, là où tu es. Le deuxième, c'est là où tu mets tes mains. Le troisième, c'est là où je suis.
Oui.
Et essaye de monter un peu plus haut.
Regarde.
Plus tard, on se souviendra de l'arbre et de la cabane, du coin du parc, des promenades qu'on a faites. De tout ce qu'on a envie de retrouver ici, d'un été à l'autre. Ce souvenir, ça fait partie de ces vacances-là.
On joue au bidon, surtout. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un grand jeu. Il y a un bidon et il faut donner un coup de pied dans le bidon pour délivrer les prisonniers.
Des attaques d'un genre-là. Un oiseau qu'on a ramassé, qu'on a tous soigné, des choses comme ça. Des pique-niques la nuit aussi, où on se raconte des histoires de fantômes devant le feu. On a tous très peur.
Leurs souvenirs se croisent et se recroisent. C'est leur trésor, le bien commun. La trace des étés passés.
C'est incroyable ça, d'entendre ça. Nous, le bidon, on appelait ça la boîte.
Mais
c'est exactement la même règle avec les prisonniers. Incroyable, comme quoi il y a une mémoire commune. Et je suis moins étonné que quand j'écris sur l'enfance... Mes lecteurs croient que je parle d'eux, quel que soit leur âge, Parce que ça, c'est... Enfin, cette, je sais pas, vous avez trouvé ces sons-là, mais
Alina,
c'est...
Alina, en 1964.
Extraordinaire.
Et c'est... ça, c'est exactement vos souvenirs. C'est ça, ouais, ça résonne.
C'est ça. Or, c'est censé être quelques années après. C'est ça qui est dingue, qui est vraiment. Mais je le sens. Je lisais des trucs sur le sur l'enfance de Cyrano. J'avais un vague projet. Je sais pas si je vais le faire un jour sur l'enfance de Cyrano, du vrai Cyrano, du Cyrano dont s'est inspiré Rostand. Et c'est les mêmes jeux, les mêmes habitudes, et on est trois siècles plus tôt. Donc il y a une permanence, c'est un continent commun, cette enfance.
Alors Timothée de Fombelle, cet été 1986, quand on sentait l'odeur des murs à la fin du mois d'août, vous étiez donc dans cette maison, c'est une maison familiale, une maison de vacances.
Oui, mais qui dépasse ma génération, c'est depuis 3, 4, 5 générations, on est dans ces îles là, sur la Sèvre nantaise, dans les Deux-Sèvres. Et il y a en fait voilà la maison de mes grands-parents, mais aussi les maisons ensuite. Plus tard, mes parents ont repris une maison à côté, des cousins, et tout ça est un immense territoire pour les chevaux échappés qu'on était, une bande de 18 cousins, très proches les uns des autres.
Avec qui vous passiez l'été ?
Voilà, c'était vraiment un moment infini. C'est ça qui est beau dans l'enfance, c'est qu'on voit pas... On voit pas de l'autre côté de l'été. Je me souviens à la fin juin, là, quand on sortait de l'école, que je me souviens sur le trottoir de la rue Madame, parce que j'étais parisien quand même le reste de l'année, et où je me disais, j'avais mon sac avec les fournitures de mon casier qui repartait vers chez moi, et je ne pouvais pas voir au-delà de l'été. Pour moi, l'été était la totalité de ce qui m'attendait, et c'est ça qui est beau, et c'est ça qu'on perd, parce que maintenant, quand je prends un train en juin, je pense qu'à une chose, c'est que le 1er septembre arrive un jour.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de ce mois d'août 1986, Timothée de Fombelle ?
Il s'est passé que je suis allé, j'ai été convoqué par mon grand-père, qui aimait bien ces rendez-vous qu'il pouvait avoir avec l'un ou l'autre de ses petits-enfants, ce qui fait que on s'est tous battus à sa mort, le soir même de sa mort, entre cousins, En jurant chacun qu'on était le préféré. Il y avait quelque chose de... Et en rigolant. Et ça, c'était assez extraordinaire de donner cette impression-là, d'être à la fois une meute de cousins et de cousines, et en même temps que des individus. Et il m'a demandé de venir dans son bureau, parce qu'il voulait me parler de quelque chose. Et là, je suis arrivé avec ma culotte courte, j'avais 13 ans, et j'ai monté les marches de l'escalier, et j'ai toqué à sa porte immense, tout me semble immense aujourd'hui, quand je repense à ce moment. Et il m'a fait rentrer, et il regardait par la fenêtre, il était debout. Quand je l'ai raconté dans mon petit livre Neverland, j'ai dit qu'il était comme un personnage de Visconti devant la fenêtre. En fait, si je parle de mes références de ce moment, je dirais plutôt comme un personnage de Sempé, comme un grand-père de Sempé. Longiligne devant l'immense fenêtre, c'est une maison très ancienne, avec des très grandes fenêtres. Il regardait dehors et il a commencé à me parler. Et je me rendais pas compte que ce qu'il me demandait me faisait peut-être un peu sortir de l'enfance.
Qu'est-ce qu'il vous a demandé, votre grand-père, ce jour-là ?
Il m'a dit qu'on lui demandait d'écrire quelque chose pour son grand ami qui s'appelait Coco, que je n'avais jamais vu, mais dont on entendait toujours parler. Coco, c'était l'ami d'enfance de toujours. C'était quelqu'un qui avait son âge et qui fêtait son anniversaire. Et sa famille avait demandé à mon grand-père, qui était vraiment un peu reconnu comme une belle plume, même si c'était pas du tout son métier, mais qui écrivait merveilleusement. Et on lui avait demandé ce qu'on appelait un compliment, un petit mot pour fêter cet anniversaire et qu'il devait écrire et envoyer à la famille. Et il m'a expliqué ça, et je voyais pas où était le problème. Je sentais qu'il allait faire encore quelque chose d'extraordinaire avec son bout de papier et son stylo, et pas du tout. Il m'a dit je sais pas pourquoi, mais je me sens pas de l'écrire, ce texte, je me sens pas capable de l'écrire en ce moment, je comprends pas, j'ai pas la force, j'ai pas le courage, est-ce que tu pourrais l'écrire? Et là, mais alors même en racontant, là je suis au bord du précipice, parce que j'ai senti que cette demande, c'était un passage pour moi, mais c'était aussi un passage pour lui. C'était en même temps une reconnaissance d'un petit talent, mais talent familial. Vraiment, j'étais pas l'animal de foire qui écrit comme un prodige, mais j'étais quand même un peu l'écrivain public dans ma famille, qui écrivait les sketchs du 15 août, justement, qui écrivait les petites pièces de théâtre qu'on jouait. Et donc, il me demandait ça à moi, plutôt qu'aux 17 autres. À ce moment-là, il y avait quelque chose de vertigineux, et surtout, tout à coup, il y avait un aveu de faiblesse pour ce grand homme, ce qu'il était pour moi, cette référence absolue qu'il était pour moi. Et cette fragilité était un cadeau et était un vertige aussi.
Alors c'est au cours de cette journée de la fin du mois d'août 1986, Timothée de Fombelle, que vous avez quitté, où vous avez fait le premier pas qui vous séparait du monde de l'enfance, et vous avez écrit d'ailleurs ce jour-là « Un gouffre s'est ouvert devant mes pieds, j'avais les talons posés au bord de l'enfance ». C'est exactement ça.
Oui, c'est ça.
Devant le vide.
Voilà, devant le vide, parce que l'enfance c'était la terre ferme pour moi. C'était même un espace, une géographie des hauteurs qui pour moi et toujours aujourd'hui est plutôt une zone qui domine l'âge adulte et qui le regarde de loin et avec un tout petit peu de condescendance, qui regarde l'âge adulte avec comme des gens qui ont peut-être perdu quelque chose et qui ont beaucoup sur leurs épaules, alors qu'on est des Indiens dans la forêt, exactement.
Alors peut-être que cet été 1986, Cure vous a accompagné sur le chemin de la sortie de l'enfance.
We'll be right back.
Timothée de Fombelle, donc en l'été 1986, à la fin de l'été, votre grand-père vous demande d'écrire un texte pour son ami Coco, son grand ami d'enfance. Vous êtes impressionné, vous avez le vertige, mais vous vous y collez, vous l'écrivez, ce texte. Et c'est un poème que vous avez écrit,
ouais.
Un sonnet.
Ouais.
Vous vous en souvenez ?
Alors, les deux dernières strophes, parce qu'un sonnet, c'est pour ça que je voulais quelque chose de court, hein, pour faire illusion plus facilement. Et les deux dernières strophes, ce sont deux tercets. Tu te frottais les mains, couvertes de craie blanche. Tu enfouissais tes poings dans le creux de tes hanches. Et tu me demandais, les deux yeux dans les miens, qu'est-ce qu'il restera demain de notre chance ? Vas-tu te souvenir de ton copain d'enfance ? Je te réponds enfin, Coco, je m'en souviens. Et ce Coco, c'était l'ami de mon grand-père, Georges. Et je me rends compte, en vous disant ces mots, que on voyait bien que je ne savais rien de Coco, je savais pas grand-chose. Et donc, je me suis adressé à un de mes copains, comme je l'aurais fait.
Et ça a plu à votre grand-père quand vous lui avez lu Timothée de Fombelle ?
Il l'a pris tel quel. Je lui ai dit, faut pas hésiter à mettre des petites choses plus personnelles, ouais. En plus, surtout qu'il disait les Alexandrins, c'est ça, j'avais la musique de l'Alexandrin dans l'oreille depuis toujours, parce qu'il récitait, je parlais de Cyrano, tout Cyrano par cœur.
Votre grand-père?
Mon grand-père, oui, il l'avait reconstitué entièrement de mémoire, il pouvait, et il parlait presque en vers, quoi. Donc j'avais ça dans l'oreille.
Alors votre grand-père, Timothée de Fombelle, était un homme extraordinaire. Hein. Il avait été prisonnier en Allemagne et puis il s'était évadé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en préparant l'émission, avant de vous recevoir, j'ai appris qu'il existait dans les Vosges un monument à la mémoire des évadés de guerre et des passeurs. Et son inauguration a eu lieu au Donon, dans les Vosges, en 1960.
Depuis quelques semaines, le mémorial du déporté se dresse sur la montagne vosgienne au Strautoff. Mais depuis ce matin à 11h, on lui fait face sur une autre chaîne de nos Vosges, le mémorial du Donon, monument érigé au pied du Donon même à la gloire des évadés et passeurs de la dernière guerre. Le Donon ne nous rappelle-t-il pas aussi les derniers combats après l'armistice en l'année 1940 ? Faire face, oui. Ils furent nombreux, les hommes et les femmes des villages de cette région vosgienne qui se mirent au service des évadés entre 40 et 45. Beaucoup ayant été découverts, tombèrent sous les balles des pelotons d'exécution ennemis ou moururent déportés dans les camps. Le Strautoff, je vous le disais, n'est qu'à quelques kilomètres d'ici. C'est pour cette raison que l'Union nationale des évadés de guerre a choisi ce site du Donon, où la forêt est dense et sombre, pour y élever un monument associant dans un même souvenir évadés et passeurs. Une masse de 60 tonnes de pierre de granit rose, encadrée de deux tronçons d'une chaîne brisée, porte l'inscription à la mémoire des évadés de guerre et des passeurs. Le mémorial, inauguré à 11h30 par M. Triboulet, ministre des anciens combattants et victimes de guerre, s'élève dans les premiers lacets de la route du col du Donon, versant ouest, région vers où convergeaient au temps sombre de l'occupation plusieurs filières d'évasion. C'était il y a 15 ans, rappelez-vous. Ils passèrent ici sous la conduite de guides bénévoles. Ici Pierre-André, Araon-sur-Plaine, Vosges, RTF.
Ce qui est fou, c'est que je vais vous dire quelque chose. Finalement, mon grand-père ne s'est pas évadé. Mais il m'a fait grandir dans l'idée de s'évader. Parce que le jour où il devait s'évader, il a été convoqué et libéré comme soutien de famille. Parce qu'il avait 7 frères et sœurs. Son grand-père était champignonnier, blessé à Verdun. Et donc, il avait préparé son évasion avec son capitaine et il a dû annoncer qu'il allait pas s'évader avec lui. Mais il a toujours regretté d'avoir obéi aux ordres. Et ça qui est incroyable dans votre archive, c'est que la nation reconnaît l'évasion comme un devoir de guerre. Or, il était arrivé dans le camp d'officiers dans lequel il était captif. Il était arrivé, on lui avait fait jurer, ses supérieurs l'avaient fait jurer de ne pas s'évader. Et dès qu'il est arrivé, il a compris que son devoir était de s'évader. Et il a eu ça comme une obsession, vraiment du début à la fin. Mais donc, il n'aurait pas son nom sur ce monument-là.
Mais en tout cas, il n'a pas cessé répéter à vous et à vos cousins, évade-toi.
Mais parce que justement, il a repensé à tous les moments dans le trajet en train où il aurait pu s'évader. Il aurait pu s'évader et où il était encore jeune sous-officier avec l'idée de l'obéissance. Et il a compris les limites de l'obéissance.
Ce même été 1986, Timothée de Fombelle, il s'est encore passé autre chose de très important pour vous.
Alors, c'est l'été juste avant le départ très loin en Afrique.
Alors, c'est pas...
Ah, c'est pas ça?
Non, je pensais pas à ça. Alors, je vais vous donner un indice.
Ah oui, d'accord, allez-y. Premier baiser. Là, vous êtes trop bien informé. Alors, sur une musique exactement comme celle-là, je fais le clown sur une piste de danse dans un petit camp dans les montagnes, dans les Aravis, du côté de la chaîne des Aravis. Un petit camp de jeunes, et c'est le dernier soir, il y a la boum. 20 ans avant, on aurait dit la surprise partie. Aujourd'hui, on aurait dit la rêve. Mais c'était la boum à ce moment-là. Et on danse. Mais moi, je danse en sautant en l'air, parce que je suis l'amuseur public. Et là, deux jeunes filles viennent me voir et me disent « Je crois qu'il y a Christelle qui voudrait danser avec toi. » Et là, je m'évanouis. Quasiment. Je suis sujet au malaise vagal. Et c'est autre basculement. Quelqu'un semble avoir envie de danser avec toi en particulier, et pas de tu lui racontes une histoire drôle, mais de danser avec toi. Et alors je me souviens plus du reste, je me souviens plus de ce qui a suivi, mais cette idée-là a été, et d'ailleurs le début de la fin aussi, parce que c'était le cauchemar qui commençait, pour le cauchemar de cette tension, de...
Est-ce qu'elle m'aime?
Oui, et puis de l'entrée dans le sujet de l'amour, quoi, qui est... Et donc c'est des... Vous voyez, j'ai essayé d'éviter en trouvant une autre chose qui s'est passée pendant l'été 86, mais ça, c'est peut-être décisif, parce que quand même, ça voilà une autre porte d'entrée ou porte de sortie de l'enfance.
Alors, mais vous avez raison aussi, Timothée de Fombelle. Ouais. En cet été 1986, c'était un été qui s'étirait parce que, ouais, justement, vous deviez partir en Afrique, en Côte, ouais, d'Ivoire, avec vos parents, votre père.
Voilà, ils étaient déjà partis, eux, quelques semaines avant, pour préparer, essayer de trouver une maison. Voilà, parce que mon père était nommé, il devait travailler comme architecte là-bas pour l'aménagement de la ville d'Abidjan. Et en Côte d'Ivoire, et ils étaient, et donc là aussi, on commençait à voir les cousins repartir, recommencer l'école, et nous, notre entrée, elle est seulement en octobre. Donc il y a quelque chose de, je me souviens vraiment de cette durée de l'été, et de cette fin qui allait être si particulière, qui allait être cet avion qu'on a pris tous là, les cinq frères et sœurs et le chien. Et on est parti rejoindre nos parents qui étaient déjà là-bas. Et peut-être le souvenir le plus marquant, c'est la sortie de l'avion et cette bouffée de chaleur et d'humidité qui nous a envahis et qui allait être notre cadre de vie pour 2 années.
Et alors, aux vacances de la Toussaint, vos parents vous emmènent au Ghana pour visiter les forts de l'esclavage.
Ce pays de la côte a été acculturé, pour employer un mot fort à la mode dans les milieux ethnologiques, il y a de cela plus de 5 siècles, lorsque les Européens débarquèrent, les Portugais débarquèrent en 1481 à Elmina, en Gold Coast. Ces Portugais étaient venus pour chercher de l'or, d'où le nom de Côte de l'or et Elmina, la mine, et rapidement le commerce de l'or dégénéra en un commerce un peu moins intéressant sur le plan moral, mais plus fructueux sur le plan financier, qui fut le commerce des esclaves. Ils établirent des forts le long de la côte et très rapidement, à ces forts, arrivèrent des traitants indigènes qui leur vendaient les marchandises, dont les esclaves. Ces forts furent d'abord portugais, les Hollandais vinrent mettre leur grain de sel, les Français, les Anglais, les Allemands, les Scandinaves. Il y eut ainsi une série de petits comptoirs qui tous drainaient des marchandises. Et délibérément, ce pays...
Qui drainait, disons, des esclaves et importait au contraire des marchandises d'Europe.
Ce pays, brusquement, a tourné le dos à l'Afrique. Et c'est cela, je crois, le côté essentiel de l'esprit de la côte, cet esprit de la côte. Il y a 5 siècles que toute cette frange côtière, tout autour de ces petits forts et comptoirs, ne s'est intéressée qu'à une seule chose, c'est à l'Europe et à l'Amérique et aux îles des West Indies où l'on exportait des esclaves.
C'est C'est la voix de Jean Rouche que vous venez d'entendre, Timothée de Fombelle. Vous vous souvenez donc de ces forts, de cette visite? Vous en avez un souvenir précis, même si vous n'aviez que 13 ans?
Oui, je me souviens alors là vraiment très très bien. J'arrive avec simplement un esprit d'aventure, de découverte. On avait fait des heures de pistes le long, partant donc de Côte d'Ivoire pour aller jusqu'au Ghana, le long de la côte. Et on arrive et on voit ces forteresses blanches et je savais rien de l'esclavage, je savais rien de ce que c'était que ces forts qui n'étaient pas du tout visités comme ils peuvent l'être un peu plus aujourd'hui. Il y avait juste un gardien dans un coin qui dormait. Et on est rentré dans ces forts et c'est comme s'ils avaient été abandonnés la veille, en 1850, donc quand même 130 ans, 140 ans plus tôt. Et c'était là que des milliers, et sur l'ensemble des forts, c'est des millions de captifs alors vraiment j'ai une admiration pour Jean Rouche immense, mais peut-être là il y a quelque chose qui a un peu évolué dans la pensée là-dessus, c'est-à-dire c'est pas quand même cette frange de côte qui se retourne délibérément vers l'Europe, c'est vraiment l'Europe qui construit ses comptoirs et qui crée ses commerce et qui est cette pompe aspirante qui va désorganiser et en effet créer des complicités sur toute la côte, mais quand même c'est vraiment les Européens qui avaient besoin de fournir 500 000 pour esclaves pour Saint-Domingue, je ne sais combien pour la Martinique, pour et ainsi de suite jusqu'à la Louisiane, et donc mais ça je le savais pas. Ce que je découvrais simplement en me glissant sous les canons rouillés, en descendant dans les cales, c'était plutôt des caves de ces forts, je découvre même la croûte de terre qui n'avait quasiment pas été foulée depuis 130 ans et qui était l'endroit où les esclaves étaient parqués en attendant d'être vendus.
Et c'est là vraiment, Timothée de Fombelle, que vous pensez à ce personnage d'Alma qui est votre dernière héroïne de votre dernier roman. Elle naît là.
On a du mal à me croire parce que je dis ça pour chaque livre, qu'ils ont leurs racines dans l'enfance, mais c'est vrai là plus que jamais que je suis revenu et j'ai commencé à écrire là-dessus. C'était pas Alma, c'était pas ce livre-là, mais j'ai commencé à écrire dans ma chambre de cette maison abidjanaise. J'ai écrit là-dessus. C'était un choc immense de se rendre compte, parce qu'on dit esclavage, on dit des chiffres comme j'en ai dit tout à l'heure, mais c'est des êtres, c'est des vies individuelles les unes à côté des autres, et c'est autant de tragédies qu'il y a de personnes, et c'est ce que j'essaie dans Alma de faire vraiment réaliser au lecteur, parce que c'est ça que j'ai compris ce jour-là, c'est que des êtres humains étaient passés par là.
Heart travels in and round where you go. Times are harder than ever been before. You know that people, they are drifting from door to door, but you can't find no heaven. I don't care where they go. People, if I ever can get up off of this old heart-killing floor, Lord, I'll never get out this low no more. Mm-hmm. Us so long.
C'est la voix de Skip James. Vous connaissez Timothée de Fombelle ?
Non, je découvre.
Une grande voix du blues. Et je trouve que ça résonne avec les descriptions que vous faites des chants dans le navire négrier,
ouais,
dans votre roman Alma, Le vent se lève.
Ouais, il y a la mémoire du griot, la mémoire du chant, en effet, et il y a une scène dans le roman que j'ai en fait piqué dans des archives que j'ai trouvées, où une femme chantait tous les jours, et quand on l'a fait arrêter de chanter sur ce navire, le capitaine négrier l'a fait arrêter, elle s'est mise à c'est l'ensemble du bateau a commencé une rébellion, et donc on l'a laissé chanter finalement, et j'ai lu ça dans des archives du 18e, et je me suis dit c'est pas possible, c'est mieux que tout ce que je pourrais écrire.
Alors pour ceux qui nous rejoignent jusqu'à 15h sur France Inter, c'est la journée particulière de l'écrivain jeunesse Timothée de Fombelle. L'été 86, donc ce jour du mois d'août 86, vous avez eu l'impression, quand votre grand-père vous a demandé d'écrire un texte pour son ami d'enfance, devant sa fragilité que vous découvriez, et peut-être le début d'une maladie, commencer à perdre la mémoire, vous avez eu l'impression que vous commenciez à quitter le monde de l'enfance. Il se trouve aussi que dans votre dernier roman, l'héroïne Alma quitte aussi le monde de l'enfance quand elle part à la recherche de son frère et quand elle quitte sa vallée. Et souvent, vos personnages quittent l'enfance ou sont sur le point de la quitter. Et c'est un des thèmes récurrents.
Ouais,
c'est ce que vous...
C'est une obsession, parce que ça, enfin, en littérature, moi, je m'intéresse qu'aux obsessions des auteurs que j'aime, donc ça me dérange pas au bout du compte, mais c'est vrai quand j'y pense, c'est à chaque fois ce basculement. Alors peut-être aussi pour ça que je choisis ces héros qui, en 2 ans, 3 ans, 4 ans de vie, sont transformés, parce que personne ne change autant. Et j'en ai une sous la main, ma fille, pour l'observer, entre 10 ans et 15 ans, il y a quelque chose de sans équivalent. Or, qu'est-ce qui fait un auteur ? Il veut que son personnage au début soit très différent de ce qu'il va devenir. Donc je pense qu'il y a aussi la cuisine de l'auteur, moi c'est pratique,
il y a aussi
ces
ça.
Moments-là. Ouais, il y a aussi ça pour faire évoluer énormément un personnage. On a la meilleure période, on est comme une sorte de laboratoire de la vie dans ces années-là.
Alors que moi je pensais que vous vouliez aussi préserver la lisière, la frontière. Préserver cette enceinte-là, comme une enceinte sacrée d'une certaine manière.
Oui, parce que je, je peux pas. J'ai beau m'approcher de l'enfance, tenter vraiment d'y faire des intrusions, non, je reste sur le chemin de ronde. Je peux pas y rentrer. J'ai pas d'illusion là-dessus, mais je peux m'en approcher, et regarder un peu à travers le grillage ou les ronces, et c'est déjà quelque chose. Et donc je peux faire illusion. Dans l'écriture, il y a quelque chose de la pêche à la mouche. Je me disais ça en venant ici, en passant le long de la Seine, il y a quelque chose comme ça du leurre, de donner l'illusion de ce petit insecte qui vole au-dessus de l'eau. Et alors je veux pas dire que le lecteur est le poisson qui gobe n'importe quoi, mais quand même il y a quelque chose comme ça, quelque chose de très léger. Et d'ailleurs le trait de la plume a quelque chose du fil dansant du pêcheur à la mouche. Ma métaphore du jour.
Alors il y a un auteur que vous aimez et qui parle de l'enfance et qui prenait très au sérieux l'enfance, c'est Antoine de Saint-Exupéry. Et il faisait de l'enfance une affaire grave et il l'a décrit dans un texte important qui s'appelle Terre des Hommes.
Ici, je ne possédais plus rien au monde. Je n'étais rien qu'un mortel égaré entre du sable et des étoiles, conscient de la seule douceur de respirer. Et cependant, je me découvris plein de songes. Ils me vinrent sans bruit comme des eaux de source, et je ne compris pas tout d'abord la douceur qui m'envahissait. Il n'y eut point de voix ni d'image, mais le sentiment d'une présence, d'une amitié très proche et déjà à demi devinée. Puis je compris et m'abandonnai, les yeux fermés, aux enchantements de ma mémoire. Il était quelque part un parc chargé de sapins noirs et de tilleuls et une vieille maison que j'aimais. Peu importait qu'elle fût éloignée ou proche, qu'elle ne pût ni me réchauffer dans ma chair, ni m'abriter, réduite ici au rôle de songe. Il suffisait qu'elle existât pour remplir ma nuit de sa présence. Je n'étais plus ce corps échoué sur une grève, je m'orientais, j'étais l'enfant de cette maison, plein du souvenir de ses odeurs, plein de la fraîcheur de ses vestibules, plein des voix qui l'avaient animée. Et jusqu'au chant des grenouilles dans les mares qui venaient ici me rejoindre. J'avais besoin de ces 1000 repères pour me reconnaître moi-même, pour découvrir de quelles absences était fait le goût de ce désert, pour trouver un sens à ce silence fait de 1000 silences où les grenouilles même se taisaient.
Alors, c'est un texte lu par Pierre Fresnay. Ça résonne, non?
Vous êtes silencieux. Ouais, ce grand écart du désert à la forêt, de l'enfance, du désert où il est. Et finalement, ça me touche plus que Le Petit Prince, moi, d'entendre ça. Et Terre des Hommes, il y a une petite nouvelle dans Terre des Hommes qui est l'oasis, qui est une splendeur où un aviateur arrive au fin fond de l'Argentine et découvre deux enfants dans une grande maison toute fissurée. Et c'est extraordinaire, vraiment. Et ça me touche, oui, des échos immenses. En plus, il y a quelque chose de frappant, c'est que j'ai découvert Saint-Exupéry, alors pour le coup par Le Petit Prince, pendant un autre moment d'exil, quand j'avais 5-6 ans, où j'étais au Maroc. Et mon père nous lisait chaque soir. Notre mère était partie parce qu'elle allait accoucher d'un autre, du quatrième de mes frères. Et il nous lisait le Petit Prince. Mais c'est extraordinaire. Et cette maison de l'enfant, je l'ai jamais vue, cette maison de Saint-Exupéry, dont il parle pas mal dans ses livres. Je crois qu'elle va être transformée en musée. J'ai vu ça.
Elle ressemble à la vôtre.
Elle ressemble complètement. Et tout dans ses souvenirs, que ce soit les grenouilles ou la forêt. D'ailleurs, le lieu de mon enfance s'appelle la forêt. En plus, c'est le nom. Donc il y a quelque chose de significatif.
Vraiment. À la forêt à laquelle vous avez dédié un des tomes de Toby Lowness. Donc dans votre enfance, il y avait 7 maisons.
Voilà.
Dans la forêt.
Dans la forêt, et qui s'appelait la forêt. Et voilà.
Dans l'ombre, la forêt qui renaît à pleines feuilles recouvre sa grandeur élémentaire, hausse ses piliers innombrables de cathédrales barbares, tresse autour du plomb de ses branchages ses vitraux lunaires. Nul ne peut rester insensible à cette respiration nocturne, à cette dilatation, à cette expansion végétale, et, sans frémir, ne peut sentir en soi se ranimer la grande peur d'avant la mort de Pan. Qu'un fan dans le lointain, pleure sa tristesse orpheline, qu'un oiseau qui rêvait s'éveille en poussant sa note oubliée, qu'un sanglier grommelle pour diriger sa harde de marcassin grognon vers une combe fraîche, qu'un renard, après le crime, le museau ruisselant, glapisse de plaisir comme un ivrogne, tout cela, et les craquements des branches, et les sillements des herbes, et les frôlements, les attouchements des plantes, et les exhalaisons des fleurs, sont autant de sensations neuves dont nous ne savons pas qualifier l'étrangeté. C'est peut-être lorsque nous nous trouvons ainsi mêlés à ce monde sylvestre que nous perdons le mieux conscience du nôtre, ou plutôt, et sans y songer, que nous mesurons le mieux la fragilité factice qui nous protège.
C'est une archive de 1950, Timothée de Fombelle. Je vous ai perdu, là.
Là, ouais, là, je me disais que la folie forêt, là, qui en ce moment envahit pas mal notre culture, sur la présence des arbres, là. Là, c'est
l'anthropologie du vivant.
Là. Ouais, ouais, c'est, il y a tout là, là-dedans. Dans la, la, c'est une, c'est un milieu, mon regard s'est transformé quand j'ai commencé à pouvoir nommer les arbres, de même quand j'ai pu nommer les étoiles d'ailleurs. C'est tout à coup, c'était pas une masse indifférenciée, c'était des individus. Et je suis extraordinairement touché par les forêts. D'ailleurs, à cet âge-là, quand je repartais à Paris à la fin des vacances, à Paris, je faisais des bonsaïs. C'est comme si j'avais la passion des bonsaïs.
Et c'était une forêt habitée comme ça par les renards. Vous entendiez les bruissements, les effleurements des feuilles.
Oui, les étourneaux, la forêt. Il y avait la forêt, l'eau qui passait au pied de la forêt. Et les racines des arbres qui étaient les mêmes que mes racines dans ce lieu, quoi. Il y a quelque chose de c'est une sorte de petit écosystème de la vie, qui, dont il était si difficile de s'arracher quand arrivaient les pluies de septembre.
Et vous y faisiez des cabanes?
J'y faisais des cabanes, beaucoup de cabanes, parfois ambitieuses, un peu en hauteur. On faisait venir les parents pour nous aider et manier la scie. Et puis, de temps en temps, des cabanes très modestes qui duraient une civilisation ne durait qu'un été. Et puis, l'été d'après, on avait déjà des ruines et on reconstruisait sur les ruines. Et il y a comme ça encore, parce que c'est un lieu où je vais toujours, d'où je reviens d'ailleurs. Et je vois encore les couches, comme à Pompéi, de ces cabanes, ces strates superposées.
Parce que vous parlez de civilisation, parce que vous y viviez chaque été. Ah, c'était une civilisation. C'était dans cette forêt.
C'était le néolithique une année, l'antiquité la période suivante, puis le Moyen Âge, et puis un jour les Lumières quand même.
Voici le chant des étoiles. Car nous sommes nous-mêmes les étoiles. Car nous sommes des oiseaux faits de feu. Passons une route pour notre âme. Car trois d'entre nous sont des chasseurs. Et ces trois-là chassent l'ours. Nous dévisageons les montagnes avec dédain. For we face the hills
to stay from the fields to hills. With disdain. La beauté devant nous, nous marchons. La beauté derrière nous, nous marchons. Beauté au-dessus de nous, nous marchons. La beauté tout autour de nous, nous marchons. Car trois d'entre nous sont des chasseurs. Ces trois-là chassent l'ours. Car nous dévisageons les montagnes. Avec dédain. For we face the hills. With disdain. For we face the hills. With disdain. For we face the hills. With disdain. For we face.
Une journée particulière, Zoé Varier sur France Inter.
Timothée de Fombelle, 1986, c'est l'année de votre journée particulière. En 1986, Daniel Balavoine disparaissait dans un accident d'hélicoptère.
Ouais, je me souviens bien, dans le Paris-Dakar.
Coluche dans un accident de moto.
Ça, je me souviens du matin de l'annonce à la radio, à côté du grille-pain. Et tout à coup... Il se figeait comme un monument alors qu'il était le dérangeur, et voilà, il y a quelque chose, il y a cette fameuse phrase qui a commencé à fleurir, n'est pas Coluche qui veut, pour commenter le travail des humoristes.
Enfin, ce qui me pèse, c'est le grille-pain, hein, ouais, à côté de la radio, c'est important. Que vous ayez l'image du grille-pain à côté de la radio qui a annoncé la mort de Coluche. En 86, on dansait sur Libertine de Mylène Farmer. On dansait aussi sur En rouge et noir de Jeanne Masse. Tout un programme et bien sûr sur Les démons de minuit. Alors vous n'avez pas dansé dessus, j'imagine, puisque vous êtes déjà tombé une fois dans les pommes dans l'émission. Là, ça aurait été trop. Mais vous vous souvenez de ça quand même.
Extraordinaire. Mais justement, là, parce que ça ne s'est pas arrêté. Donc pendant les 2-3 années de surboom qui ont suivi, il y avait Les démons de la nuit.
Et là, vous dansiez.
Ouais, je dansais. Je me suis remis un peu à faire le clown, c'est-à-dire à danser en sautant en l'air et en agitant les bras.
Alors en 1986, je ne sais pas si vous en souvenez, vous aviez 13 ans, Timothée de Fombelle, le PDG de Renault, Georges Besse, est assassiné par les membres d'Action Directe. C'est aussi l'année où les étudiants et les lycéens manifestent contre le projet de loi Devaquet. Vous étiez loin, Afrique.
Ouais.
Malik Oussekine est tué par la police.
Ouais.
Il y a une énorme manif en décembre, 400 000 personnes pour lui rendre hommage. Alors, autre événement peut-être, celui-là, vous vous en souvenez, 1986, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl explose.
Un accident a endommagé un des réacteurs atomiques d'une centrale nucléaire soviétique. La nouvelle est d'autant plus exceptionnelle et sans doute d'une certaine gravité qu'elle a été annoncée par l'agence TASS et reprise immédiatement dans le journal télévisé. L'Union soviétique n'évoque en général qu'avec réticence et beaucoup de retard les accidents et catastrophes pourtant le lot de tous les pays. Il y a des victimes, précise l'agence officielle soviétique, en notant qu'elles sont soignées, ce qui laisse supposer qu'il ne s'agit pour l'heure que de blessés. Des mesures sont prises pour éliminer les conséquences de l'accident, ajoutent, dans leur style laconique, les médias soviétiques. Cette centrale nucléaire de Tchernobyl est située en Ukraine, dans la région très peuplée de Kiev. Ces trois tranches datent de moins de 10 ans et avaient été inaugurées avec fierté. L'agence de presse Novosti, dans un article publié en 79, titrait « La centrale atomique de Tchernobyl, aucune raison de s'inquiéter ».
Alors Timothée de Fombelle, ce qui est intéressant, c'est que c'est une archive du 29 avril 1986 et ça, c'est la première archive qu'on ait sur dans Alina, alors que l'accident avait eu lieu 3 jours avant. Ouais. C'est-à-dire que pendant 3 jours, on n'en a rien su.
Ouais.
Et
ouais.
Ça, vous vous en souvenez ?
Oui, je me souviens, mais c'était comme une... C'était une onde, effectivement, qui arrivait, on était habitué quand même à un monde avec des frontières, avec même un mur qui nous séparait de toutes ces zones-là. Et je me souviens avoir pris conscience du destin commun de l'humanité où toute frontière n'existe plus. On a la même question sur l'écologie, sur le réchauffement aujourd'hui, sur tout à coup une catastrophe peut dépasser les frontières, même si on pensait quand même que
le nuage
s'arrêterait quand même, puisque on est habitué à ce que les révolutions, les drames restent bien dans leur zone.
En 1986, l'Institut du cinéma danois accordait enfin, après 14 ans d'attente, des subventions pour que le tournage du Festin de Babette commence.
I Paris vann jag en gång en rire konkurrens och blev därefter firad av de franska kavalleriofficerarna med en middag på en av stans modernaste restauranger, Café Anglais, där kökschefen förbluffade en ovan kvinna. Vi fick Kai en sarkofar.
Halleluja.
Men det är verkligen Kai en sarkofar.
Ja, det är det.
Timothée de Fombelle, c'est la dernière archive de cette émission. Je crois que vous aimez particulièrement ce film, non ?
Exactement, mais je ne sais même pas comment vous le savez. J'aime ce film et j'aime cette nouvelle de Karen Dixon, qui est une splendeur, qui, en tout cas, la traduction que je lis et relis, ça s'appelle Le Dîner de Babette. Et le film s'appelle Le Festin de Babette. Oui, c'est vraiment la densité de ce qui se dit pourtant cette histoire tellement simple de cette cuisinière en exil qui, en quittant la petite communauté extrêmement raide et protestante de ce fjord là, en quittant, décide de faire le plus grand repas qu'elle a jamais préparé et va faire ses cailles en sarcophage et cette soupe de tortue et j'y pense sans arrêt. Je trouve que c'est un résumé de ces... Je pense qu'en littérature jeunesse, c'est un peu ce qu'on fait. C'est-à-dire, on est bien planqué là dans notre fjord et on écrit des histoires peut-être en fait qui font partir de la littérature alors qu'on est regardé un peu comme des petits raconteurs d'histoires. Mais ça me va très bien. J'aime cuisiner pour ces amateurs là qui est sans surmédiatisation, en racontant des histoires et peut-être en construisant un repas complet année après année.
Vous cuisinez, Timothée de Fombelle, des cailles en sarcophage, vous aussi,
ouais,
c'est ça ?
Ouais, c'est vraiment ce que je fais ou je fais. Je crois que c'est un veuf Clicquot 1867 là qui est servi dans ce repas et c'est ce que j'ai l'impression de faire en écrivant pour la jeunesse. Et de temps en temps, un vieux général comme le général qu'on entend là arrive à cette table et se souvient qu'il a bu le même champagne ou mangé ses cailles en sarcophage au Café Anglais à Paris, dont bien sûr Babette était le chef auparavant.
Interprété par Stéphane Audran.
Ouais.
Merci Timothée de Fombelle, c'est fini. C'était votre journée particulière. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Votre dernier roman, que j'ai adoré, faut le dire, Alma, Le vent se lève, est publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Le deuxième tome, c'est pour quand ?
c'est pour l'année prochaine à la même date. Mais il y a encore un peu de travail et ça c'est le bonheur de pouvoir être encore avec Alma.
Alors vivement l'année prochaine. Merci.
Merci à vous Zoé. C'était vraiment c'était une journée que j'ai revécue, mais dans mon corps, donc c'est bon signe. Ça c'est de la radio.
Merci, c'était une journée particulière. Une émission préparée par Hugo Combes, Alina Anne Delaveau, à la réalisation Flora Bernard, à la programmation musicale Djoubaka et à la technique Florent Layani. On se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter ou podcaster l'émission sur le site de France Inter. Passez un bon week-end.